De retour sur les ondes de Radio Canut, excusez-moi, avec nos trois camarades Cyril, Benjamin et Muriel pour parler un peu de la suite de leur aventure, de leur petite mission civile au sein de Ramallah.
On va peut-être répondre au tout début à une question qui était posée par un auditeur, savoir comment participer aux missions civiles, c'est ça ?
Voilà, alors la question, d'après ce qu'on m'a dit, c'était une auditrice qui demandait comment on fait pour participer aux missions civiles, en particulier quand on est... d'origine maghrébine ou arabe. Et donc ben, on va tenter de répondre, c'est pas très très difficile. Bon, alors déjà, comment on fait pour participer aux missions civiles ? À partir de la France, on peut prendre contact avec donc l'une ou l'autre des deux associations qui s'occupent d'organiser ces missions, à savoir l'association France-Palestine Solidarité. Les intéressés auront pris leur stylo. Donc AFPS, 21 Terre, rue Voltaire comme le célèbre écrivain, 75-011 Paris, donc AFPS, 21 Terre, rue Voltaire, 75-011 Paris. Et sinon, l'autre association, c'est Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien, en abrégé ça fait CCIPPP. 27 rue d'Amsterdam, la célèbre ville de Hollande, 75-08 Paris. Donc c'est pas le même arrondissement, mais en gros ils travaillent ensemble, donc l'une ou l'autre vous orientera pour votre départ en Palestine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment ce sont des associations à but non lucratif, et donc elles ont des moyens financiers limités et ne permettent pas à quiconque de partir. Quiconque veut partir, bien sûr, paye son billet et paye son séjour sur place. Donc ça, ben, forcément, ça limite au niveau des petits budgets, mais on peut vous dire que nous trois, on est des petits budgets aussi, et là, c'est simplement été facile pour nous d'organiser des initiatives de solidarité. On va pas revenir dessus, mais des sous, ça se trouve.
On peut remercier quand même les gens qui nous ont ouais. Filé du flouze.
C'est vrai, t'as raison.
Du flouze.
Merci les gens. Qui nous ont aidé à partir, soit à travers la souscription qu'on a faite, soit à travers la tombola, soit à travers les soirées qu'on a organisées. Voilà, c'est ça qui nous a permis d'aller là-bas aussi. C'est l'essentiel.
On peut remercier aussi ceux qui vont nous donner des sous plus tard, parce que on en a encore un peu besoin, étant donné que le budget a été limite. Mais bon, pour répondre à la deuxième partie de la question, quand on est d'origine maghrébine, bah, a priori, ça pose un petit peu plus de problèmes que quand on s'appelle Benjamin ou Muriel ou Cyril. À savoir qu'on sera peut-être un peu plus questionné sur notre objectif du voyage à l'aéroport ou même avant de prendre l'avion. Et en tout cas, bien sûr, ils font quand même attention à qui c'est qui traite. Et c'est sûr qu'avec un passeport français, il n'y a pas trop de problèmes. Je peux dire que nous, déjà, là, on était avec des gens qui s'appelaient Samir et Kamel, Fatima. Donc l'entrée, elle n'est pas du tout exclue spécifiquement à des personnes d'origine arabe. Mais c'est sûr que... De fait, comme Israël est un État raciste et que la population est même elle-même largement raciste, les complications sont un petit peu plus démesurées. Mais ceci dit, les complications sont pour tout le monde et il faut absolument éviter au moment des passages de douane de donner un quelconque détail sur les objectifs de notre voyage.
Il vaut mieux dire qu'on est touriste, qu'on visite les lieux saints. De...
Voilà, c'est ce qu'on a fait. On venait voir des monuments bibliques.
Peut-être si ça serait possible, je réfléchissais à ça, d'essayer de contacter des gens, des citoyens et citoyennes d'Israël, pour leur demander, leur faire un papier comme quoi on vient les voir, etc. Donc c'est peut-être pas donné à tout le monde de trouver ce style de personne ou ce style de papier, mais c'est une piste, à mon avis, à fouiller, quoi.
N'importe comment, les deux associations en France vous donneront toutes les détails sur l'issue du voyage et compagnie. Ensuite, vous êtes remis sur place par vos propres moyens aux partenaires palestiniens et des fois israéliens aussi.
Ok, donc les contacts éventuellement, c'est la FPS à Paris, rue Voltaire, et le CIPPPP.
Ouais, CIPPPP. rue d'Amsterdam, numéro 37, 75008, Paris.
Ah, on peut redonner aussi la source, puisque finalement un bouquin a été écrit, entre autres avec l'aide de José Bové, puisque c'est lui qui est mis en avant un petit peu pour ses missions et pour ce bouquin, puisqu'il est venu à Lyon le présenter. C'est un livre qui
aussi parce que mettre son nom, ça permet de rapporter plus de sous, parce que les bouquins sont devant dans les librairies.
Voilà. Le bouquin s'appelle Retour de Palestine, donc 11e mission. Tu peux lire tout le titre si tu veux.
Non, c'est bon.
Non. Et c'est aux éditions Mille et Une Nuits. Et donc voilà, c'est sorti où ça sort demain?
C'est sorti lundi. Lundi.
Donc y a quelques photos, et puis il y a des inscriptions sur comment se passe une mission civile en Palestine. On va peut-être revenir donc sur votre arrivée.
Alors, un petit mot, oui, puisqu'on a annoncé à nos auditeurs qui peuvent appeler. Donc, on vous rappelle le numéro de téléphone, 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15, pour poser une question, apporter une pierre au débat. On pourra même le faire en direct sur les ondes de Radio Canu, avec éventuellement quelques soucis techniques, mais ça pourra se faire.
On est fort. Oui, comment vous avez perçu l'ensemble de la société? Enfin, est-ce que vous avez pu percevoir quelque chose de la société palestinienne en dehors des gens que vous avez pu voir, par exemple en situant Arafat par rapport au Hamas, par rapport à des gens comme ça, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas qui veut répondre.
Moi je veux bien apporter deux mots. Alors, ce que j'ai vu de la société palestinienne, c'est une société qu'on déchire, quoi. C'est une société que l'armée israélienne écrase à coup de tank. C'est-à-dire que la politique de Sharon, elle est justifiée par les attentats, les actions qui ont lieu à Jérusalem ou enfin en Israël. Mais en fait, le projet politique de Sharon, c'est de détruire la société palestinienne et de la mettre sous dépendance. Parce que ce qu'on a pu assister, c'est que la destruction des canalisations d'eau, la destruction des réseaux électriques, des écoles, des hôpitaux, comme on en a parlé tout à l'heure, des centres culturels, des théâtres, des mosquées.
Des églises.
Je sais pas si. Ouais, certainement. Enfin, et des bombardements de zones d'habitation, enfin, la destruction des camps à Jenin ou à Deiché ou ailleurs. Et donc, c'est ça ce qu'on a pu se rendre compte de la société. Palestinienne, malheureusement. C'est le projet de Sharon, je pense, c'est de maintenir à côté de l'État d'Israël une société économiquement non viable, où les habitants n'ont pas de droits, n'ont pas le minimum vital, ou juste ce qu'il faut de minimum, ultra minimum vital, et en le mettant sous dépendance israélienne. Je pense que c'est un petit peu mon analyse après avoir vu un bout de Palestine avant de rentrer chez Arafat et après en être sorti, parce qu'on a vu la différence de Ramallah aussi, que quand on était transporté par les véhicules de l'armée israélienne, on a vu, on n'aurait pas dit que c'était la même ville, quoi. Et aussi parce que quand on était dedans, tous les gens qui étaient avec nous, ils avaient leur portable et des nouvelles de leur famille, de leur entourage, de leur ville, parce que tout ce n'était pas de Ramallah. Et donc on savait ce qui se passait autour, enfin dans toute la Palestine, sans forcément y être de nos propres yeux, quoi. Mais le massacre de Jenin, malheureusement, je dirais, on est assisté en direct en étant impuissant parce qu'enfermé, mais je pense que personne peut douter une seule seconde que c'est bien un massacre qu'il y a eu à Jenin, et les journaux
comme Le Monde qui disent qu'il y a eu entre 50 et 80 personnes. J'espère qu'ils se rendent compte que c'est de la plaisanterie, quoi, de donner des chiffres pareils.
Et sur le poids politique d'Arafat, comment il se situe? Est-ce que vous avez une idée si il est représentatif et si les autres composantes de la société palestinienne ont une importance? Je parlais du Hamas tout à l'heure. Et qui...
Moi, je peux essayer de répondre à ta question, déjà la première, puis la deuxième. Pardon. Ce qui se passe bon, en ce moment, peut-être rappeler que l'ensemble de la société palestinienne, qu'elle soit palestinienne d'Israël ou palestinienne des territoires occupés, est politisée. Toutes les familles sont dans un parti, quel qu'il soit. Dans les villages, dans les villes, c'est la même chose. Ils ont tous et toutes une implication politique dans les partis et dans les ONG, dans des associations, dans des... Enfin bon, l'ensemble de la population est politisée, ce qui est assez différent des autres pays arabes dans la région. Une autre différence assez frappante, c'est qu'il y a plusieurs courants politiques existants. Donc tu parlais du Hamas, qui est pas nécessairement un petit courant. Il y a le Fatah, bien sûr, d'Yasser Arafat, qui est le courant majoritaire. Et le Parti populaire palestinien, c'est l'équivalent du PC en France, ou ailleurs. Et puis en France, il n'y a plus de PC, c'est vrai.
Oui, ça a changé entre temps, pendant que vous étiez là-bas.
Et voilà, et d'autres petits courants, plus encore à gauche ou plus encore à droite. Ceci dit, vu la situation depuis quelques mois, et en particulier la situation les deux derniers mois, toutes les petites querelles de partis se sont largement atténuées et je crois que l'ensemble, mais vraiment l'ensemble de la société palestinienne s'est retourné derrière son président. Ça a été très clair avec les communiqués du Hamas justement qui disaient si vous touchez au président ça va dégénérer. C'était des avertissements. Mais je crois que vraiment tout le monde, y compris le PC, y compris le FPLP, se sont tournés derrière Arafat en disant, vu la situation catastrophique, c'est quand même lui le président des Palestiniens, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui est légitime, et c'est lui qui a le pouvoir et, de négocier en particulier. Ceci dit, donc, nous on s'en est rendu compte, pas visuellement, mais plus en parlant un peu avec les gens et compagnie. C'est vrai que nous, dans le palais du président, il n'y avait pas toute cette composante multiple de partisans. Il y avait essentiellement des gens autour du Fatah, ouais. Ou du PC un peu, et FPLP.
Alors vous, une fois que vous étiez dedans, comment vous avez ressenti votre rôle? Est-ce qu'on ne se sent pas un petit peu impuissant? Parce que finalement... vous vous retrouviez dedans, mais à part barrière humaine, ça gère comment au jour le jour ce sentiment-là?
Ben, déjà, notre rôle il était direct. Dès qu'on est rentré, les tirs sont arrêtés. Quoi. Les jours d'avant, il y avait des tirs, des soldats palestiniens sont morts. Dès qu'on est rentré, la situation à l'intérieur elle a changé directement. Donc après, petit à petit, bon, ben, effectivement, nous, on s'est organisé à l'intérieur, de savoir maintenant on était dedans. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus, quoi? Déjà, le meilleur était déjà là, c'est qu'on avait pu empêcher l'assaut. Donc, nous, entre internationaux, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, et à l'extérieur, il se passe, enfin, ça continue, quoi. Donc, on s'est organisé, on a fait des réunions, donc il y a eu des... On s'est organisé pour pouvoir faire un travail sur les médias. Donc ça, c'est déjà de l'intérieur. C'était aussi toucher les médias à l'extérieur.
Ouais, il y avait la question des médias qui a été quotidienne. Soit nous les appelions, on a appelé Radio Canu par exemple.
Oui, on a souvenu.
Ou alors ils nous appelaient. Radio Canu nous a pas appelé, mais
c'est difficile.
Ouais, c'était difficile pour nous joindre. Mais sinon, il y a aussi tout un travail de fait en destination du mouvement social mondial. Il y avait avec nous des gens qui participaient aux luttes type Porto Alegre ou machin truc. Après, un paysan sans terre du Brésil, un paysan basque qui était assez actif là-dessus et qui nous ont poussé un peu à faire des communiqués en direction du mouvement social. Puis il y avait un troisième travail de fait au quotidien, c'était les contacts avec les services diplomatiques des pays respectifs qui nous représentaient.
Je crois qu'on va passer quelqu'un, on a une question, si j'ai bien compris.
Oui, alors il y a une auditrice qui vient d'appeler et qui n'a pas voulu vous couper la parole, donc je transmets sa question. Mmh. Elle voulait savoir ce que vous pensez du boycott des produits israéliens qu'on peut pratiquer depuis nos différents pays, et est-ce que vous pensez qu'il est applicable ?
Alors le boycott des produits issus de l'économie israélienne, c'est bien sûr un principe qu'on défend, parce que notamment en Afrique du Sud, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui a eu des effets. Je ne sais pas si ça a eu des effets réels dans l'économie, mais en tout cas, ça a eu au moins des effets symboliques. Et ça fait partie des choses qui a rendu très impopulaire le régime d'Afrique du Sud. Et je pense qu'il faut, mettre en place, de la manière qu'on peut, à notre échelle, le boycott des produits issus de l'économie israélienne dans un premier temps. Alors, Israël est un grand fabricant de produits de pointe, de haute technologie. Donc c'est pas forcément tout ce qu'on achète tous les jours.
On n'achète pas mais souvent des chars ou des trucs comme ça. Nous.
Non, même des puces pour... le jour où on se posait la question, enfin appeler le monde entier au boycott de l'économie israélienne, ils fournissaient une puce pour relancer le cœur d'une personne en France qui... voilà, elle venait d'Israël, bon ben, manque de peau. Mais en tout cas, les oranges Jaffa, les téléphones Motorola... les fleurs, enfin, Israël est un grand fabricant de fleurs. Je pense que c'est un peu les fleurs style fleurs McDonald's qu'on trouve un peu partout. Il faudrait plus rechercher effectivement si elles viennent pas de l'économie israélienne qui exploite les travailleurs palestiniens et même les travailleurs pas que palestiniens puisqu'elle exploite les travailleurs israéliens eux-mêmes et encore des travailleurs d'autres pays, d'Afrique, d'Asie, etc. comme on a pu les croiser quoi. Mais bien sûr. Quand je vais aller acheter des kiwis ou des oranges, je vais regarder d'où ils viennent et s'ils viennent d'Israël, je vais pas les acheter.
Il y a pas mal d'avocats.
Ouais, avocats aussi. Ouais.
Mais c'est une économie. Enfin, le reste, c'est assez difficile à déterminer au niveau de l'économie. En général, l'implication israélienne n'est pas évidente.
Mais moi, j'ai vu des listes de. Il y a vraiment des produits qu'on peut boycotter facilement.
Mais on a vu aussi la liste des entreprises qui avaient donné de l'argent, par exemple, à Israël, directement ou indirectement. Et dans ces cas-là, on ne pouvait plus acheter grand-chose non plus parce que pas mal de gens étaient concernés.
Et une démarche qu'on pourrait proposer d'ores et déjà, c'est que Orange, la filiale de France Télécom, fournit des cartes de télécommunication à moitié prix aux soldats israéliens. Et donc, ce qu'on peut proposer, c'est que chaque personne, quand elle va payer sa prochaine facture téléphonique, c'est qu'à l'intérieur, elle glisse un mot. Qui dénonce ça et qui demande l'arrêt du sponsoring de l'armée israélienne et des soldats israéliens, tout à fait.
D'accord. Je crois qu'on a un autre appel à passer à l'antenne, ça marche pas. Bon, bah, on va continuer.
Pourtant, ça marchait quand on appelait de Ramallah, c'est quand même dommage.
Ouais, mais on maîtrisait.
Faut appeler de l'étranger.
Ça marche mieux avec les téléphones portables orange de l'étranger.
Ils vont prendre la main, mais ça marche avec la nouvelle installation normalement.
Bah ouais. Surtout que Milouz y maîtrise, mais bon, là, c'est un autre problème. On va revenir donc sur l'ambiance un peu dans le QG d'Arafat, parce que ça a dû être quand même un petit peu difficile de se retrouver dans un lieu confiné, parce que je pense que vous étiez assez confiné. Comment se passait la vie au jour le jour
Ben, allez, moi, je prends la parole.
Ben.
Ben, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand on est entré dans le palais, après avoir essuyé des tirs par terre, mais quand même ça c'était assez effrayant. On est rentré sans se retourner en se disant ah mais ça va, je peux encore bouger donc j'avance. on a découvert 300 personnes, 300, 400 personnes dedans, complètement tendues, stressées. Et je crois que dans l'immédiat ça a créé une sorte d'apaisement qu'on a vraiment senti. Enfin, moi, je l'ai vraiment senti comme quelque chose d'un gros ouf collectif, quoi. Ouf, ils ont pu rentrer, et voilà. Ceci dit, les intimidations de l'armée ont duré une bonne semaine autour de nous, en particulier la nuit, où c'était assez difficile de dormir, parce que c'est à ce moment-là où ils faisaient tourner les batteries des tanks pour les recharger. Donc ça faisait du bruit quand même pas mal. Et en même temps, ils balançaient des bombes sonores, des bombes assourdissantes. Et c'est vrai qu'il y a aussi eu des moments, des bruits de tir.
Et des obus.
Ouais, des attaques.
Dans le bâtiment. Et les gens qui étaient dans le QG d'Arafat, ils étaient là depuis longtemps. Parce qu'on sait que le QG était c'était une sorte de ghetto déjà depuis un certain temps, depuis décembre, c'est ça ce que tu disais, Muriel, tout à l'heure. Est-ce qu'eux, ils avaient pu rentrer et sortir parmi les gens autour de Yasser Arafat?
Ouais, ils étaient là. L'occupation du QG datait de 2 ou 3 jours. Donc, il y a pas mal de gens qui étaient. Bon, il y a tous les gens qui sont autour d'Arafat, enfin la police, sa protection, etc. Et il y avait des civils aussi, des étudiants de l'université d'à côté, etc., qui étaient venus là comme dernier rempart, enfin pour leur sécurité. C'était un petit peu le centre, enfin de. Je pense que beaucoup de gens ont été attirés. On a été 400 personnes dans ce moment-là. Ce que je voudrais dire au niveau de la vie quotidienne, effectivement, qui n'était pas spécialement facile, notamment au niveau de l'hygiène. Mais bon, comme je disais, enfin, on avait le droit de ne pas se laver. La dictature hygiéniste n'avait pas cours. Mais il y a eu beaucoup de fantasmes au niveau de la nourriture, parce que effectivement, on a perdu quelques kilos. Et c'est sûr que par rapport à ce qu'on consomme, notre niveau de consommation d'Européens, d'Occidentaux, on était largement en dessous. On a eu des repas avec une demi-vache qui rit et un quart de galette. Mais je pense que personne d'entre nous a oublié que par rapport à 70% des personnes qui habitent sur cette terre, on était encore des privilégiés. On mangeait encore mieux que la plupart des gens sur cette planète, quoi. Et ça, je pense qu'on l'a jamais oublié, et jamais on a été en tout cas, je parle pour moi, jamais je me suis demandé, enfin j'avais faim avec mal au ventre et me dire non, je veux rentrer, enfin on peut plus, etc., quoi. Je dirais que les moments où les rations étaient les plus petites, c'était plutôt rigolo, je dirais. Enfin, il y avait une ambiance un peu colonie de vacances ou un peu camping, quoi.
D'accord. Alors, on va faire une petite coupure parce qu'on a quelqu'un à l'antenne, c'est ça, au téléphone.
C'est bon, vas-y. Oui, bonjour. Donc, c'est Annick de Lyon. Je voulais poser une question donc aux personnes qui étaient dans le QG. En fait, je voulais savoir le lien qu'il y avait entre les personnes des missions civiles et Arafat. Enfin, s'il y avait eu de la désinformation, des pressions d'Arafat sur eux pour rester ou des choses comme ça.
Alors, qui s'y colle ?
Allez, ben non, bah c'est la question. Cette question est très bonne, merci. évidemment, il y a eu des bruits comme quoi on était pris en otage par Arafat, comme quoi l'armée israélienne nous nourrissait, des choses comme ça. Et effectivement, faut le démentir, mais je pense que personne n'est dupe. Nous, on était protégés, on était là pour protéger Arafat en tant que symbole de la résistance et également tous les gens qui avaient autour. On était nourris par l'autorité palestinienne et la nourriture était bloquée par l'armée israélienne. Et les gens qui posaient problème, c'était bien l'armée israélienne en situation d'occupation et de siège, qui nous pourrissait la vie. C'était bien l'armée israélienne.
Effectivement, on a pu rencontrer plusieurs fois Yasser Arafat et quand il a été question de notre sortie collective, il nous a bien dit vous faites, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez, quoi. On n'a jamais eu une pression ou quoi que ce soit. On s'est toujours organisé ensemble et notre sortie a été décidée collectivement.
C'est vrai, même quand on a pu rencontrer le président et lui poser des questions sur nos initiatives, qu'est-ce qu'il en pensait, et y compris sur les initiatives qu'on voulait prendre dans les jours suivants, il nous répondait toujours, mais ça c'est vous êtes libre, quoi, de décider vos trucs. Donc on n'a jamais ressenti aucune pression de la part de lui-même ni de ses sbires pour nous faire agir dans un sens ou dans l'autre.
Donc déjà, je rappelle que les gens peuvent rappeler au 04 78 39 18 15 pour poser des questions à Cyril, Ben et Muriel. Et moi, j'ai une question sinon à poser plus spécifiquement peut-être à Muriel par rapport à la situation des femmes en Palestine.
Alors, la situation des femmes en Palestine, hélas, pendant les trois semaines, on n'en a vu aucune parce qu'on était au milieu de 400 gars. Et les seules femmes qui étaient là, c'était nous, les internationales. Mais moi, j'ai pu tirer quelques infos, donc je veux bien faire un petit point dessus. Effectivement, la guerre que subit la Palestine aggrave la condition des femmes palestiniennes. Dans le contexte actuel, leur situation critique se renforce. Les violences dont elles sont